questions en compagnie de quatre experts pour leur demander de nous commenter l'actualité de la semaine, proposer et confronter leurs analyses, éclairer les enjeux par des références à la théorie économique, s'ils le veulent bien, autour comme chaque samedi de deux sujets. Le premier, c'est une citation, à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit. C'est ce qu'a assuré le président François Hollande jeudi soir lors de son intervention télévisée. Quelques jours auparavant, l'annonce dans un grand quotidien économique d'une possible taxe nouvelle sur les résidences secondaires avait fait réagir aussi. Nous allons parler de cette politique fiscale qui donne un petit peu le vertige. Nous allons voir ce système à la fois complexe et très technique. J'espère que nos invités sauront l'éclairer avec suffisamment de simplicité pour que nous puissions tous le comprendre. France, impôts nouveaux, gestes fiscaux, fraude également. Difficile en effet de ne pas aborder aussi le LuxLeaks surgi en fin de semaine et qui implique plusieurs grandes entreprises françaises. On verra par quel mécanisme. Ce sera donc notre sujet du jour, le maquis fiscal. Déjà, certains de mes invités reprochent ce terme de maquis. Nous allons y revenir. Notre deuxième thème, ce vendredi à Paris, à l'initiative de la Banque de France, s'est tenue la réunion des banques centrales. Ils étaient tous là, Janet Yellen, patronne de la Fed américaine, de la Réserve fédérale américaine, M. Kuroda, son homologue de la Banque du Japon, M. Carnet de la Banque d'Angleterre et le français Benoît Coeuré, qui est membre du directoire, comme on le sait sans doute, de la Banque centrale européenne, qui représentait lui Mario Draghi, son président, et encore présente Christine Lagarde, directrice générale du FMI. Bref, un symposium important dont le thème « Quelle voie suivre ?». Ce thème, semble-t-il, en dit long sur les grands chambardements au sein de ces institutions dont nous allons rappeler le rôle et les pouvoirs. Et en effet, quelle voie suivre ? Nous pourrions même ajouter les banques centrales des grands pays développés et les autres d'ailleurs. Suivent-elles ou doivent-elles suivre la même voie ? Plusieurs annonces retentissantes, en tout cas cette semaine, de part et d'autre de la planète. Le coup de théâtre, on parle de bazooka, paraît-il. On verra si ce terme est si répandu que cela. Donc le bazooka monétaire japonais, les taux américains, les annonces donc de la BCE, qui est maintenant, c'était hier, le rouble que sa banque centrale veut soutenir. Les politiques monétaires des grandes puissances sont plus que jamais au cœur des questions clés pour l'économie mondiale, laquelle est, comme on le sait, en pleine mutation. Nos intervenants vont donc débattre, les intervenants pardon, du symposium, mais on peut le faire ici aussi, débattaient hier de sujets aussi variés que conduire la politique monétaire avec des dettes publiques élevées ou bien réinventer le dosage de politiques macroéconomiques. On revient sur tout cela, convergence, divergence et tendance des grandes banques centrales dans l'économie mondiale. Et nous sommes ce matin en compagnie de Philippe Askenazy, directeur de recherche au CNRS, de Julia Cagé, professeur d'économie à Sciences Po, David Tesmar, professeur de finance HEC, et Xavier Timbaud, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bienvenue à tous les quatre et bienvenue à tous. N'oublions pas nos actualités invisibles en toute fin d'émission, on leur laissera de la place. Et bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Notre premier sujet, donc un peu plus d'un an après avoir annoncé une pause fiscale qui n'a pas, semble-t-il, toujours été tenue cette année, le chef de l'État a donc pris jeudi soir un engagement plus précis et affirmé que la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu qui est prévue l'an prochain, qui bénéficiera, on le sait, à plusieurs millions de ménages, 9 millions modestes et moyens, ne sera pas compensé par des augmentations sur d'autres catégories. On pense bien sûr aux catégories moyennes et aux catégories les plus aisées. Pourquoi n'aimez-vous pas le terme de maquis fiscal, Xavier Timbaud, puisque c'est vous qui m'avez fait cette remarque sur mon titre ?
Sur le building de l'administration fiscale américaine, il y a écrit... Les impôts sont le prix à payer pour la civilisation. Voilà. Donc, le problème, c'est que quand on commence par maquis fiscal, poids des prélèvements obligatoires, on oublie que nos sociétés modernes ne vivent que parce qu'elles ont la capacité de lever l'impôt, d'assurer la redistribution, la dépense publique, et en fait l'existence de nos sociétés avancées.
Vous voulez dire que le terme de maquis fiscal a l'air de se plaindre d'avoir à payer des impôts?
Ben, un petit
alors,
peu.
Ce n'était pas mon intention,
un
je proteste.
Peu. Après, il y a un deuxième point, je pense, auquel il faut faire très attention, c'est dans la crise qu'on vient de traverser, on a beaucoup analysé tous les mouvements d'austérité en Europe. Ces mouvements d'austérité ont pris, dans les pays européens, des formes différentes. Il y a des pays où on a baisser les salaires. Alors, baisser les salaires, comment on a fait? Ça s'est passé par le chômage, qui a été très élevé, comme en Espagne, comme en Grèce, comme en Portugal. Ça s'est passé par des mesures de désindexation ou de baisse des salaires minimums, des baisses des salaires des fonctionnaires. Donc, et des mesures qui sont assez brutales et qui touchent le revenu des gens qui travaillent. Et on a aussi baissé des prestations sociales comme les retraites, etc. Donc, et en France, on a souvent l'argument de dire, en fait, on n'a pas fait d'austérité en France parce qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas baissé les salaires, ou les salaires ont beaucoup moins baissé qu'en Espagne ou au Portugal. Oui, mais une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on a procédé à une augmentation des impôts. Et en fait, ça conduit, quand on regarde le revenu agrégé, je viens de poster sur Twitter un petit graphique qui l'illustre, le revenu agrégé des ménages français, il y a une baisse tout à fait considérable, de l'ordre de 1500 euros par ménage, sur la période après la crise, dont une grande partie est liée à l'augmentation des impôts. Mais si on réfléchit bien à qu'est-ce qu'a eu la conséquence, ou comment on peut comparer la conséquence de ça par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays, en fait, il faut quand même ne jamais oublier que les impôts sont payés par ceux qui ont de l'argent. Et donc, ils sont plus payés par ceux qui ont de l'argent que ceux qui n'en ont pas. Parce que les taux d'imposition dans la plupart des pays européens, des premiers déciles, sont relativement faibles, les taux d'imposition moyens. Et donc, si on compare ce qui s'est passé en Grèce, au Portugal, en Espagne, ou ce qui s'est passé en France, c'est une charge de l'austérité qui est portée, non pas par le plus haut de la distribution, mais plutôt par la deuxième moitié de la distribution, contre, en Espagne ou au Portugal, le bas de la distribution. Et, enfin, alors après, on peut être très critique sur la façon dont ça a été fait, la lisibilité, et on va en parler, je pense, tout de suite. Mais voilà, ne jamais oublier ce qui est écrit sur le building à Washington de l'administration fiscale.
Et vous nous le dites à nouveau.
Les impôts sont le prix à payer pour la civilisation.
Merci Xavier Timbaud. Je voyais Julia Cachet faire quelques mots à ce que vous venez de nous dire. Moi, je faisais effectivement référence dans le maquis fiscal à la complexité de notre système et à sa technicité, comme je l'ai dit, mais on peut l'entendre autrement. Julia Cachet, pas d'accord tout à fait avec cette analyse de Xavier Timbaud?
Non, je suis d'accord sur l'utilité des impôts. Hein. Je ne vais pas critiquer la nécessité des prélèvements obligatoires. Là où je vous trouve un peu dur avec Dominique, sur le terme de maquis, c'est pas tant moi, la complexité que j'avais cru comprendre derrière ce terme, c'est plutôt... Le grand flou hollandais, si je puis dire. Et François Hollande, quand même, d'une manière ou d'une autre, il annonce depuis 2012 la pause fiscale tous les 6 mois, tous les 2-3 mois d'ailleurs plutôt. Et si on commence depuis le début du mandat en 2012, Jérôme Cahuzac, qui était alors ministre à Bercy, avait dit que l'effort fiscal, par exemple, serait concentré sur 2013. Ensuite, en 2013, on a eu l'expression du ras-le-bol fiscal. Donc hier, François Hollande va à la télé et annonce...
Reprise d'ailleurs par Pierre Moscovici, on s'en souvient.
Reprise par Pierre Moscovici.
Alors
même
ministre de l'économie.
Qui l'a mise dans le débat. Et donc, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette nouvelle annonce de François Hollande? Je ne sais pas vraiment. Il y a une précision que je voudrais faire par rapport à ce que vous avez dit. Xavier Timbaud. Sur le poids des prélèvements obligatoires. Ce qui me frappe quand même dans ce qu'a fait Hollande et justement dans l'incompréhension finalement des Français vis-à-vis de sa politique fiscale, c'est la question de la TVA. Et la TVA, elle est payée par tous les Français. On sait très bien que de facto, c'est un impôt qui est plutôt plus régressif, donc qui pénalise plus les plus pauvres que les plus riches, parce que les plus pauvres consomment une plus grande partie de leurs revenus. En janvier 2012, fin janvier 2012, Sarkozy avait annoncé une augmentation de la TVA. Je crois que c'était à 21,2%, en contrepartie d'une baisse des charges patronales. Le candidat Hollande avait bondi. Il avait dit « si je suis élu, il n'y aura pas de hausse de la TVA ». Le président Hollande était revenu sur cette hausse de TVA dès juillet 2012.
Et nous sommes à 20%.
Non, il était revenu à 19,6%.
À l'époque, c'est vrai, 19,6%.
Et ensuite, pour financer le CICE, il l'a réaugmenté à 20%. Et tout l'effort d'impôt, enfin la plus grande partie de l'effort d'impôt aujourd'hui, en 2014, 5 à 6 milliards d'augmentation d'impôts en 2014. Aujourd'hui, c'est la TVA. Donc on a quand même bien eu des hausses d'impôts et qui n'ont pas porté principalement sur les plus riches.
D'accord, Xavier Timbaud, avec cela, oui.
Oui, d'accord, mais la hausse des prélèvements obligatoires sur les ménages depuis maintenant le début de la crise, donc ça inclut à la fois Nicolas Sarkozy, François Hollande et les différents gouvernements qui sont succédés, la hausse des prélèvements obligatoires pour les ménages a été de l'ordre de 70 milliards d'euros, dont 5 milliards de TVA, ça c'est incontestable, mais ça n'est qu'une partie. Et dans ces 70 milliards d'euros d'augmentation des prélèvements, y en a qui touchent plus le haut de la distribution des revenus. Encore une fois, ce n'est pas le dernier décile qui a tout payé, loin de là, mais et qui épargne, du coup, plutôt les premiers déciles. Après, oui, tout le monde paye des impôts, et les premiers déciles ont subi l'augmentation de la TVA, d'autres augmentations aussi, parce qu'il y a des taxes comme les taxes sur le tabac, qui sont extrêmement régressives, celles-là, qui ont été aussi payées par les plus pauvres.
Oui, c'est toute la question, et ça va nous amener d'ailleurs à cette affaire du Luxembourg qui vient de sortir, c'est-à-dire comment échapper à l'impôt, et ce ne sont pas les plus pauvres qui échappent. David Tesmar.
Oui, échapper à l'impôt, oui. Je crois, dans la logique du maquis fiscal, il y a la logique de résistance aussi.
Merci. On fait vraiment de la sémantique.
Non, mais c'est vrai que si les impôts sont le prix à payer pour la civilisation, bon, on comprend bien quand même qu'on ne va pas non plus payer 100% d'impôts, donc on peut obtenir peut-être une bonne civilisation avec un niveau d'impôts qui soit intermédiaire. La question, c'est quel est ce niveau. Je crois que pour replacer le débat, je crois que ce qui est utile pour replacer le débat, c'est d'essayer d'avoir une idée des masses, un peu dont on parle. Hein. Donc, en gros, les prélèvements obligatoires, c'est un petit peu moins de la moitié du PIB. D'accord. Donc, mais là-dedans, en fait, l'État représente à peu près un tiers de ça. D'accord. Donc, les impôts vraiment levés par l'État lui-même, c'est seulement un tiers de tous les prélèvements obligatoires. Après, vous avez à peu près un sixième qui correspond aux impôts locaux. D'accord. Donc, ça finance les collectivités locales. Et puis, le reste, c'est la moitié des prélèvements obligatoires, c'est les cotisations sociales. C'est-à-dire tout ce que vous voyez sur votre fiche de paie, le maquis fiscal que vous voyez sur votre fiche de paie, des différentes cotisations, allocations familiales, vieillesse, sécu, etc., CSG, CRDS. Et ça, c'est la moitié. Donc ça, c'est énorme, en fait. Hein. C'est, en gros, en France, les cotisations sociales, c'est à peu près 20% du PIB. C'est le niveau le plus élevé, d'ailleurs,
j'allais
du
vous
monde.
Dire, vous le dites en France, parce que c'est un niveau très élevé.
Oui, c'est parce qu'en France, donc en France, il faut savoir un peu. Donc après, la question qui se pose en profondeur là-dessus, c'est que sur la moitié des prélèvements obligatoires, qui sont les cotisations fiscales, vous avez de la redistribution. Les cotisations sociales, pardon. Vous avez... pardon, je commence à tout mélanger, ça devient compliqué. Mais en gros, les cotisations sociales, génèrent... Enfin, c'est un très gros prélèvement sur le revenu des gens, qui est la plupart du temps payé. Le débat est très confus là-dessus parce qu'on a le sentiment que c'est payé par les entreprises. En fait, c'est payé par les gens, c'est-à-dire c'est payé sur les salaires. C'est-à-dire que si jamais on baisse vos cotisations sociales, votre salaire va augmenter, d'accord ? Donc c'est bien des salaires. Donc c'est de la consommation forcée de services sociaux, en un sens, de santé, de retraite, etc. Il faut avoir en tête que pour le revenu moyen, à peu près 2 000 euros par mois, vous cotisez à la caisse d'allocation familiale environ 200 euros par an. Par mois, d'accord ? Et vous recevez, si vous avez deux enfants, 130. Donc déjà, pour le Français moyen, d'accord, qui a deux enfants, il est payeur net à la caisse d'allocation familiale. Donc il y a beaucoup de redistribution qui se passe là-dedans et qui échappe totalement à la délibération publique. Oui. Qui se focalise, elle, sur l'impôt sur le revenu, qui est vraiment une petite partie, qui est tout petit devant les cotisations sociales.
Oui, ce qu'il faut souvent rappeler. Vous avez fait allusion, en fait, à deux actualités récentes. La première, c'est cette taxe sur les résidences secondaires, qui montrait à 20% cette taxe d'habitation, donc impôts locaux. On va peut-être y revenir si vous le souhaitez.
Semi-local, semi-national. Enfin, c'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué. Mais que là, en tout cas, l'État propose aux communes de lever. Et puis la deuxième, c'est effectivement le plafond des allocations familiales, qui est aussi une actualité, puisque on l'a vu, il serait supprimé pour les classes les plus aisées. Philippe Askenazy, qu'on n'a pas entendu là-dessus.
Oui, quelques réactions à ce que mes collègues ont pu avancer. Toujours autour de ce mot maquis, moi, ce qui personnellement me gêne, c'est que lorsqu'on va à l'étranger, il y a tout autant d'impôts, c'est tout aussi compliqué. Vous avez des impôts locaux, des impôts nationaux, même. C'est pas une spécificité française, c'est simplement que l'économie elle-même est complexe. Il y a un grand nombre d'acteurs, et cela, ça rencontre dans tous les pays. Alors, là où il peut y avoir quand même.
Décidément, ça m'apprendra
autour...
à reprendre un terme qu'on voit partout.
Je vais quand même aller dans votre sens. C'est-à-dire que il y a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une promesse de choc de simplification. et que ce choc de simplification se traduit pas par une réalité pour les Français. On ne voit rien dans la simplification du débat public. On a par exemple annoncé, c'est assez frappant, donc David Tesmar parlait de la fiche de paye. Mais par exemple, la fiche de paye, on dit on va simplifier, on va faire une ligne pour les employeurs, une seule ligne. Mais par exemple, dans cette ligne, la grande mesure du gouvernement actuel, c'est le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi, elle ne va pas apparaître. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une cotisation sociale. Pourtant, c'est une réduction du coût de travail que va toucher l'entreprise. Mais comme ça passe par la fiscalité, l'impôt sur les sociétés de l'entreprise, ça ne va pas apparaître sur la fiche de paye. Donc, on a une politique de baisse du coût du travail, en fait, de baisse des cotisations in fine que payent les entreprises. Ça ne va jamais apparaître dans la fiche de paye. Donc, on est dans une situation où on fait des pseudo-chocs de simplification, alors qu'il n'y a pas la réalité de... on promet, regardez, vous allez voir sur votre fiche de paye la réalité de ce que vous payez, de ce que paye l'entreprise, etc. C'est totalement faux. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que l'on va. Et donc, je pense que si on veut effectivement gagner en termes de pédagogie, de compréhension de ce qu'est l'impôt, parce que... je rejoins ce que disait Xavier Timbaud. L'impôt est en quelque sorte, enfin l'impôt, les cotisations, etc. C'est ça qui fait fonctionner les États partout dans le monde. Donc si on veut conserver une adhésion au système, il faut effectivement gagner en lisibilité de manière assez étonnante. On ne gagne pas de la même manière que annoncé. On va plus augmenter les impôts, c'est quand même quelque chose de très très étrange. C'est se lier les mains à un moment où les Français veulent savoir où on va en termes de politique. Ben, c'est assez étonnant, on fixe comme politique de ne rien faire d'une certaine manière. C'est très frappant. Or, de toute manière, les Français, il faut bien voir que vous avez au moins la moitié des Français qui, chaque année, ont leur revenu qui augmente et qui donc, même si vous bougez rien à l'impôt sur le revenu, à aucun impôt, l'année prochaine n'en paieront plus des impôts. Donc, de toute manière, vous êtes certain de faire une déception mécanique sur, en gros, la moitié de la population l'année prochaine. Donc tout cela, effectivement, plutôt qu'une affaire de maquis, au lieu de faire un choc de simplification, on rend de moins en moins compréhensible lisible, oui. le système. Et donc
de moins en moins acceptable, parce qu'il est là, comme vous
faites remarquer
vous-même,
il faut une adhésion. Un risque in fine, et de manière assez étonnante, ça peut être les personnes qui ont tendance aujourd'hui à voter pour notamment l'extrême droite, qui a des promesses totalement insolites en termes de fiscalité, parce qu'en gros, ils baissent la fiscalité en disant on va gagner des dizaines et dizaines de milliards d'euros sur l'immigration, des dizaines de milliards qui n'existent pas. Bon, eh bien, ils sont en train de... il faut bien voir la technologie qu'il y a derrière ce que propose l'extrême droite. Les plus grands perdants vont être sur propres électeurs. Et donc, il y a derrière cet enjeu de lisibilité, etc., quand même un enjeu démocratique pour qu'on ait des débats politiques qui soient plus sereins, plus construits. Alors, ces débats, ils portent
et
sur
plus pédagogique,
la fiscalité
d'une certaine manière.
Peut-être donc également gagner en pédagogie sur ce qui est les cotisations sociales. Là, il y a, je pense, un rôle de la part des partenaires sociaux à gagner sur cette pédagogie, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de débat démocratique sur les cotisations sociales. Ce débat, on a accepté en France que ça soit porté par les partenaires sociaux qui négocient les conventions chômage, etc. Donc, il faut aussi, ils ont leur rôle à jouer sur cette réhabilitation de l'impôt. Et c'est assez étonnant, vous voyez, par exemple, de voir que il mélange absolument n'importe quoi. Certains d'entre eux, j'ai été frappé par exemple de dirigeants de la CGPME qui crient contre une des mesures que vous avez annoncées, c'est potentiellement un impôt supplémentaire sur les résidences secondaires. Et vous avez le patron de la CGPME qui râle contre ça, évidemment, parce que beaucoup de patrons français ont des résidences secondaires. Mais quel rapport avec l'entreprise ? Donc tout le monde fait qu'on se perd complètement aujourd'hui.
Julien Cagé qui rit à cette remarque.
Non, surtout cette taxation sur la résidence secondaire, elle est vraiment très soft, puisqu'on prévoit même que si la résidence secondaire est utilisée pour des raisons professionnelles, dans ce cas-là, elle ne sera pas taxée comme une résidence secondaire.
En effet.
Il suffit que le patron de PME ouvre une filiale, pas au Luxembourg, mais à Bordeaux.
La
ne sera pas taxé sur sa maison d'Arcachon.
L'objectif, pour information, pardon, c'est d'inciter les propriétaires effectivement à remettre sur le marché locatif un appartement, dans les zones tendues d'ailleurs, on parle de zones tendues, hein, un appartement qui lui sert de résidence secondaire. Ça concerne à peu près une trentaine d'agglomérations, pas beaucoup plus, et 150 millions d'euros qui seraient recueillis par les communes, hein, nous dit le journal en question.
Mais je voudrais souligner un point rapidement avant, en réponse à ce qu'a dit Philippe Askenazy. Je pense que le problème, c'est qu'on n'est pas face aujourd'hui uniquement à un problème d'acceptabilité, on est face à un problème d'efficacité. Et on va parler un peu du Luxembourg, de la fraude fiscale, mais alors même si on regarde en France, on s'aperçoit que les hausses d'impôts n'ont pas eu les effets escomptés, en partie parce qu'il y a eu beaucoup plus de fraude que dans les années précédentes. Et c'est... On pourrait y voir avant... Quand on me disait « oui, il y a de la fraude, il y a des Français qui ne paient pas d'impôts, etc. », on pouvait voir une espèce de discours démagogique de l'extrême droite. Mais de facto, maintenant, si on regarde vraiment les chiffres, on voit qu'il y a eu une vraie augmentation de la fraude fiscale ces dernières années.
Particulier et entreprise.
Particulier et entreprise. Si on regarde les entreprises, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti, son rapport annuel sur la sécurité sociale, qui regarde l'augmentation des fraudes aux cotisations sociales. Pour 2012, le montant estimé est supérieur à 20 milliards d'euros. Juste pour donner un chiffre en termes de comparaison, le trou de la Sécu en 2014, c'est 13 milliards. Donc en fait, simplement en réduisant cette fraude-là, on résorbe d'un coup le trou de la sécurité sociale. Et en partie, on peut dire que cette fraude est liée à la question de l'acceptabilité. Parce qu'après tout, si vous acceptez pas des taux d'impôt trop élevés, bon, dans ce cas-là, vous allez essayer de fuir l'impôt. Mais c'est vraiment lié aussi à cette complexité. Il y a tellement d'impôts dans tous les sens, et puis il y a tellement peu de gens aussi pour contrôler que les gens paient effectivement leurs cotisations sociales ou ne fraudent pas aux prestations sociales, qu'on a des milliards d'euros qui sont perdus dans l'économie du fait de cette augmentation des fraudes. Et je pense que c'est un double problème, parce qu'en plus, ça alimente ce débat contre l'acceptabilité de la fiscalité. Oui.
Rappelons quand même qu'il y a, les pays s'organisent, hein, notamment au sein de l'OCDE, pour lutter contre la fraude fiscale du côté des particuliers, et qu'on entend s'attaquer d'ailleurs aussi à l'OCDE, à celle des grandes entreprises. On va venir à cette fameuse affaire de LuxLeaks. Le plan propose des mesures, hein, qui seraient adoptables en 2014-2015, c'est l'OCDE donc, et l'une d'entre elles serait effectivement d'obliger les pays à mieux faire connaître les listes des gens qu'elles accueillent, des entreprises qu'elles accueillent. Du côté des particuliers, il y a eu quelques résultats quand même, non, sur la fraude fiscale des particuliers, ou pas encore? Vous n'en voyez pas venir? On vient de citer le cas français, mais sur les autres, je vois... Non, il n'y a pas de réponse très enthousiaste.
Sur la fraude
enthousiaste,
fiscale des particuliers, il y a ce mouvement qui a été opéré, qui a été d'exercer des menaces et qui ont été jugées assez crédibles sur les Français qui auraient des actifs, des avoirs à l'étranger. Oui. Et de leur proposer une solution de rapatriation, c'est-à-dire ils ramènent leur argent de l'étranger en France, on leur calcule un impôt qui est celui qu'ils auraient dû payer, et ils n'ont pas à payer d'amende dans le cadre de la régularisation. Alors l'impôt qu'ils ont à payer peut être assez important, parce qu'il peut régulariser 10 ans de non-paiement de l'impôt, éventuellement du non-paiement de l'impôt sur le revenu au moment de la constitution de ses revenus. Donc ça peut être des taux d'imposition qui sont à 70% sur ces sommes qui sont rapatriées, ou à 80% qui sont rapatriées de l'étranger. Et dans le mouvement porté par l'OCDE, et qui est une des très très bonnes nouvelles de cette après-crise quand même, qui est de lutter contre l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, la fiscalité nocive aussi, qui est un concept extrêmement intéressant qui a été mis en place, dans ce mouvement général et vers l'échange d'informations systématiques vers lequel on se dirige, un certain nombre de gens ont dit il vaut mieux, plutôt que d'être pris la main dans le panier avec 2 millions d'euros à l'étranger, rapatrier tout ça, en récupérer 30% et être tranquille. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près
des résultats.
De l'ordre cette année, je crois que c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros, les sommes qui ont été engrangées par le fisc au titre de ces régularisations, ce qui n'est pas négligeable,
c'est pas le même problème que la fraude au prélèvement, que le travail au noir
c'est une autre nature de fraude, elle est assez importante, elle est assez injuste. La fraude est évidemment multiforme et de toute façon toujours inacceptable, hein, quelle que soit sa forme, il y a des éléments qui avancent sur ce plan là et ça, c'est une très très bonne nouvelle.
Alors, on en vient, et il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Je vois David Tesmar, le Luxembourg, donc au cœur du scandale. On parle de scandale, puisque il nous dit que c'est légal. Donc, si c'est légal, ce n'est pas un scandale. Et pourtant,
non,
tout
si
le monde
légal,
utilise ce terme. David Tesmar, on rappelle l'affaire. Hein, on vient de voir que c'est un pays qui... fait une optimisation fiscale aux entreprises tout à fait faramineuse. Et ça s'est passé en plus au moment où Jean-Pierre Juncker, nouveau président de la Commission, était Premier ministre pendant de nombreuses années de ce pays. Il n'est pas le seul, ce pays. Il y a les Pays-Bas, il y en a d'autres.
Je crois qu'il faut quand même distinguer, la fraude de l'évasion fiscale, enfin de ce qui est illégal de ce qui est légal. On est tous d'accord que la fraude, c'est pas bien. L'évasion fiscale, c'est le signe effectivement d'un certain niveau de désorganisation, du fait qu'il y a de la concurrence entre les pays. L'avantage, évidemment, c'est que ça maintient quand même, les dépenses, la taxation, la capacité de taxation à un niveau acceptable. C'est-à-dire que le rôle de l'évasion fiscale aussi, c'est de limiter, de même que le rôle de la concurrence fiscale, c'est de limiter un peu le niveau de taxation. On sait quand même qu'il y a un problème, ça dépend des pays, mais quand vous prenez par exemple la France, on sait qu'il y a un problème quand même d'équilibrage des comptes. C'est-à-dire que les hommes politiques ont toujours tendance à dépenser beaucoup et puis essayer d'augmenter les impôts pour rattraper les dépenses. Bah, là, vous avez quand même un outil de discipline qui passe soit pour la concurrence fiscale, soit par même l'exil de l'intérieur. Il faut quand même contrôler ça. Pour vous donner un exemple juste sur LuxLeaks, donc sur le côté sur les entreprises qui optimisent leur fiscalité, il est probable que la taxation des bénéfices des entreprises est probablement pas la façon la plus efficace de taxer l'économie. Il vaut mieux taxer les détenteurs de facteurs de production, c'est-à-dire soit les travailleurs, donc ça ils sont déjà très taxés, notamment via les fameuses cotisations sociales dont on a parlé, ou alors les détenteurs de capital, c'est-à-dire que quand vous détenez une entreprise, vous touchez les profits de la firme, et quand vous touchez les profits de la firme, là vous êtes taxé à ce niveau-là. Et donc, du coup, et puis après, vous taxez la consommation, c'est-à-dire la TVA. Et d'ailleurs, de fait, la France, de ce point de vue-là, est un peu un point aberrant. C'est-à-dire qu'en France, le taux de taxation des profits est très, très élevé, par exemple, ce qui pousse évidemment les entreprises à essayer de minimiser les profits réalisés en France pour pouvoir minimiser leurs taxes. Mais ce que ça traduit, c'est que c'est pas le mélange, si vous voulez, c'est pas le mix fiscal que la plupart des pays choisissent, y compris les social-démocraties scandinaves, hein, qui est de taxer plutôt le capital, la consommation.
On va laisser Julia Cagé réagir à ce que vous venez de dire et puis on va.
Si David Tesmar
dit bien sûr
que c'est pas un scandale parce que c'est légal, et c'est vrai que le tax ruling c'est légal, mais j'aimerais bien expliquer ce que c'est quand même à nos auditeurs. Au moins c'est un scandale démocratique parce que le tax ruling c'est quand même une manière pour le Luxembourg de. En français ça se traduit par décision fiscale, mais pour le dire concrètement.
Fiscal,
c'est un rescrit fiscal. Oui, c'est un rescrit fiscal. Mais ça c'est vraiment technique.
Oui.
C'est un accord fiscal qui va être négocié entre un gouvernement, en l'occurrence le Luxembourg, et des entreprises dans laquelle une entreprise va demander à l'avance en fait comment sa situation va être traitée, et on va lui garantir une certaine fiscalité. Et là où je pense qu'on peut dire qu'il y a vraiment du foutage de gueule de la part du Luxembourg, c'est qu'on a un pays qui annonce taux d'impôt sur les sociétés de 29%. Donc si on doit regarder, en fait, si on est la France et qu'on veut regarder notre taux d'imposition, si on est compétitif ou pas par rapport à d'autres pays, en face de nous, on a un pays qui annonce un taux d'imposition de 29% et qui, par des accords fiscaux avec des multinationales, par derrière, contre une implantation minimale, va voler entièrement la baisse fiscale de ses partenaires européens en leur faisant payer des taux d'impôt qui tendent vers zéro. Et ça, c'est un scandale pour le moins démocratique. Et je pense même que ça ne devrait pas être légal.
C'est vrai qu'il y a quelque chose... Pour la démocratie luxembourgeoise, en tout cas.
Oui, mais ça, c'est un problème. Démocratie européenne.
Mais il y a quelque chose quand même de déloyal envers les partenaires de l'Union européenne de la part d'un pays comme le Luxembourg. Alors Jean-Claude Juncker s'en défend avec énergie, mais on peut se dire quand même que s'il accepte comme ça
non, mais
de
la concurrence fiscale a des coûts et des avantages. La concurrence fiscale, évidemment, aboutit effectivement à ce genre de comportement, à ce type d'opacité, etc. D'un autre côté, elle maintient un peu quand même le niveau de fiscalité qui spontanément, sinon, augmenterait sans limite. Hein,
alors,
dans certains pays, en tout cas.
C'était David Tesmar, un peu seul dans ce débat. Philippe Askenazy.
Oui, je vais encore taper sur David Tesmar. Justement, lorsqu'on regarde la liste des entreprises qui sont concernées, ça n'a rien à voir avec le taux d'imposition des pays. C'est pas, il n'y a pas particulièrement des entreprises françaises. Il y a des entreprises qui ont participé à ce mécanisme, alors même que le taux marginal d'IS, d'impôt sur les sociétés, est nettement plus faible que le niveau français. Donc c'est un jeu qui est un jeu véritablement de toutes les multinationales, quel que soit le policy mix, les choix fiscaux des pays. Alors, là où je taperai peut-être moins, c'est sur le Luxembourg. Après tout, il fait son jeu. Ce qui me paraît, moi, nettement plus surprenant, c'est que lorsqu'on revient à chacun des pays ensuite, les dirigeants de ces grandes entreprises, qui se disent souvent des dirigeants nationaux, je suis une entreprise française, une entreprise suédoise, eh bien, ces personnes-là, après, elles reviennent dans leur pays, eh bien, on va continuer à les écouter pour prendre des décisions politiques, on va les recevoir dans les plus hautes sphères de l'État, des premiers ministres, des présidents, etc. Alors qu'il faudrait au contraire les ostraciser. On dit...
Non, mais ils payent quand même beaucoup d'impôts, par exemple. Amazon, même si Amazon, je ne sais pas si c'est le cas d'Amazon spécifiquement, mais si Amazon paye peu d'impôts sur les bénéfices en France, ils embauchent beaucoup de gens et
IKEA,
de fait, ils payent beaucoup de cotisations.
Non, Amazon n'est pas une entreprise, n'est pas une entreprise française.
IKEA paye très peu d'impôts.
IKEA paye très peu d'impôts en France, comme en Suède.
Ils payent des cotisations sociales quand même.
Là, on parle d'impôts.
D'impôts.
Les cotisations sociales...
Non, mais c'est des prélèvements obligatoires, tout ça, c'est
fou. Dans ce cas-là, on peut supprimer l'impôt sur les sociétés et simplifier drastiquement la discussion.
Les cotisations sociales sont... Pour la plupart, un salaire différé. Donc, c'est très malhonnête de les considérer comme un impôt. Parce qu'un salarié de chez IKEA, il paye sur son salaire des cotisations sociales, mais il va recevoir quand même une retraite et une assurance santé. On pourrait dire qu'il ne les paye pas, mais il va devoir à ce moment-là cotiser à sa retraite ou à son assurance santé par ailleurs. Donc, les impôts que paye IKEA sont liés aux bénéfices que réalise IKEA. Et les montages fiscaux, apparemment, que IKEA a réussi à monter, lui permettent d'abaisser très significativement son imposition sur les bénéfices.
Enfin, il finance le modèle social français. Donc,
ce qui crée par ailleurs.
C'est bien ça qui se passe.
Mais il ne finance pas le modèle social français, pas plus qu'on peut considérer qu'il ne meuble les demeures françaises. Enfin, je veux dire, c'est pas une croisade, là, en l'occurrence. Oui, il y a des gens qui travaillent chez IKEA. Est-ce que c'est pour autant qu'ils financent le modèle social? Non, c'est les gens qui travaillent chez IKEA qui financent leur propre modèle social. IKEA n'a rien à voir avec ça.
Et le manque
IKEA
à gagner, des meubles en on France. L'a souligné, est important.
IKEA ne va pas installer des magasins au Luxembourg en vous demandant d'aller chercher des meubles au Luxembourg quand vous voulez vous meubler. Et donc, si IKEA met des magasins en France, c'est parce qu'il veut vendre des magasins en France. On ne peut pas dire IKEA, par générosité, non, mais je crois financer le modèle social français.
Je crois que c'est un
d'une malhonnêteté.
Attention, on va être obligé d'arrêter notre débat, c'est dommage.
C'est tout à fait honnête. Il y a quand même un peu de... Enfin, les gens ne savent pas s'ils récupèrent exactement ce qu'ils payent en cotisation sociale, quand même.
Donc, ça, c'est
ça,
une
on
question.
Peut recevoir plus ou moins. Il y a quand même un financement du modèle social. On ne sait pas qui. Effectivement, il y a des gens qui récupèrent plus que ce qu'ils payent. Il y a des gens qui récupèrent moins que ce qu'ils payent. Mais là-dessus, il y a une opacité totale. C'est ça qui contribue.
Très vite, Xavier, quand nous arrivons à la fin de ce premier sujet.
Je voudrais citer sur ces questions Pascal Saint-Amans, qui est le responsable à l'OCDE des questions de fiscalité et de normalisation et de lutte contre la fraude fiscale. Donc, il dit, on a beaucoup lutté jusqu'à maintenant contre la double imposition, c'est-à-dire les entreprises qui étaient imposées deux fois, une fois dans leur pays d'origine, une fois dans le pays où elles exercent. Il faut aujourd'hui lutter contre la double non-imposition. Et c'est bien ça dont il s'agit pour IKEA, pour Amazon, pour Starbucks, pour Apple, pour Google,
la liste est
extraordinairement longue, d'une part. Et d'autre part, il utilise le terme, et donc c'est Pascal Saint-Amans, c'est pas Dominique Plion d'Attaque. Il utilise le terme
Ça pourrait être David Tesmar, par exemple.
Moi, je paye des impôts, moi, donc je ne sais pas.
De neutraliser le caractère potentiellement nocif des régimes fiscaux particuliers, en particulier le tax ruling auquel Julia Cagé faisait référence, le caractère nocif. Donc, vous voyez, c'est une position maintenant qui est devenue officielle à l'OCDE, qui est quand même la représentation des pays développés, et qui considère que des systèmes fiscaux peuvent être nocifs. Donc, même quand ils sont légaux, évidemment, ils sont nocifs à l'équilibre... de l'ouverture des frontières, parce que fondamentalement, c'est ça la contrepartie.
Et je tiens
si on veut la libre circulation
on arrête là, on arrête là.
La libre circulation des gens et des activités, à ce moment-là, il faut accepter qu'il puisse y avoir des régimes fiscaux nocifs et contradictoires avec cette ouverture.
Oui, on peut peut-être terminer cette séquence, mais on y reviendra, c'est bien intéressant, par un jugement un peu moral. Je sais bien qu'en économie, ça n'a pas toujours sa place, mais on peut quand même faire remarquer que ces particuliers, ces entreprises, donc les plus riches, qui disposent aussi de conseils, car on n'a pas parlé des cabinets de conseil, qui la main sur le cœur nous disent qu'ils y sont pour rien, mais enfin tout de même, on peut en discuter, ceux-là peuvent éviter de payer des impôts, ce qui n'est pas le cas quand même de la plupart des contribuables. Et ici, on est sur un jugement qui rejoint un peu ce que vous venez de nous dire, avec M. Saint-Amans. On reste là, vous êtes d'accord sur ce thème, on y reviendra, c'est promis.
Vous écoutez l'économie en question sur France Culture avec Dominique Rousset.
Et cette petite pause que nous prenons maintenant, en général, permet au débat de se poursuivre ici même. On continue donc, et nous sommes bien sur l'économie en question, en effet, avec Philippe Askenazy, Julia Cagé, David Tesmar et Xavier Timbaud. Merci à tous les quatre d'être là, et nous parlons cette fois de la question des banques centrales. La banque centrale, hein, c'est une institution chargée par un État ou un ensemble d'États, puisque nous avons, nous, la BCE, commencé, de décider d'appliquer la politique monétaire. Donc je résume très vite ses rôles, hein. Elle assure bien sûr l'émission de la monnaie, le fonctionnement des marchés financiers, en tout cas, elle y contribue et elle joue, s'il le faut, le rôle de prêteur en dernier ressort en cas, là je cite la définition que l'on trouve partout de la Banque centrale, en cas de crise systémique. Eh bien, les banques centrales sont vraiment au cœur aujourd'hui des difficultés de l'économie mondiale, de son ralentissement, avec toutes ces informations nouvelles qui sont intervenues cette semaine et qui nous donnent envie d'en parler. D'abord, qu'est-ce qu'un bazooka monétaire, David Tesmar? Il paraît que c'est ce qui s'est passé au Japon ces jours-ci.
Oh bah, c'est
et que le
bazooka...
terme est très utilisé.
Ah, le bazooka a commencé à émerger déjà au milieu de la crise européenne. C'est le moment où le terme a commencé à apparaître. C'était le moment où effectivement on voulait que effectivement les banques centrales puissent de manière générale financer les États. Je crois que c'est ça là. Je crois que c'est ça. Jeudi, vous avez eu une annonce importante, hein, enfin importante. Disons, il y a eu une annonce qui a été très relayée en tout cas de Mario Draghi, donc le président de la Banque centrale européenne, qui a annoncé qu'il devrait que la Banque centrale européenne serait beaucoup plus active sur les marchés, achèterait beaucoup de dettes. Alors
on parle de 1000 milliards,
milliards d'euros.
D'euros. Nous sommes à la BCE. Pardon.
Effectivement, je crois que le point important, c'est que il y a eu une innovation qui est apparue dans la conduite de la politique monétaire depuis le début de la crise, qui est que la Banque centrale achète des actifs. Avant, la Banque centrale prêtait aux banques. Elle pouvait décider de prêter plus ou moins cher, suivant qu'il fallait réchauffer ou refroidir l'économie. Donc, ce que fait maintenant la Banque centrale, c'est que c'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Donc, ça maintenant, on devrait tous être familiers avec ce terme, même si c'est un terme anglais, qui est qu'elle intervient, elle achète directement des titres. Et alors,
en zone euro,
il y a une difficulté parce que vous avez une institution supranationale qui est la Banque centrale, et puis vous avez des États, et ces États ne sont pas d'accord sur tout. Et donc, du coup, ce que fait la Banque centrale européenne, c'est qu'elle achète des titres privés. Essentiellement, enfin elle achète aussi des titres publics, mais en douce. Ce qu'elle achète essentiellement, c'est quand même des titres privés, c'est-à-dire de la dette, de manière à devenir un peu le prêteur de dernier ressort du marché immobilier européen, des grandes entreprises européennes. Ils espèrent aussi des PME, idéalement, mais c'est plus difficile à faire, parce que ça, c'est vraiment les banques qui peuvent le faire. Mais en tout cas, agir en achetant comme ça des titres privés. Et donc l'enjeu, ce qu'on a découvert en fait dans la conduite de la politique monétaire, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, hein, le grand succès de ces politiques monétaires-là, et dans une certaine mesure au Japon, même si je pense que le débat reste ouvert, c'est que ce qui est très efficace aussi, et ce qui est très très important, c'est d'acheter de la dette publique. C'est-à-dire que la banque centrale se met à acheter de la dette publique. Donc c'est ça qui a très bien marché au Royaume-Uni, c'est ça qui a très bien marché aux États-Unis, pour la simple et bonne raison que quand un État doit relancer l'activité, il s'endette, il devient surendetté, donc il reprend à sa charge une partie de la dette privée qui se promenait dans l'économie. Et pour que cette dette soit supportable, il faut vraiment que la banque centrale monétise indirectement cette dette publique. Et donc le next step, l'étape suivante,
merci pour nous.
L'étape suivante dans la conduite de la politique monétaire en zone euro, ça va être d'acheter de manière assez massive de la dette publique. Et
donc,
ça, Mario Draghi a commencé à préparer un peu les esprits à ça. C'était aussi un peu le sujet du grand raout très chic d'hier, de vendredi dernier.
Le grand symposium de vendredi
des banquiers centraux.
Alors ça, c'est pour la BCE, dont on parle assez souvent ici. Le Japon, donc, son bazooka monétaire, c'était d'annoncer qu'il accroissait lui aussi son programme de rachat d'actifs, hein, comme vous venez de nous l'expliquer.
Et indirectement des actions, surtout.
C'est ça le grand bazooka. Parce que son économie stagne et qu'il reste un taux d'inflation très bas, donc il espère que ça va s'arranger avec ça. Pas mal de scepticisme d'ailleurs, hein, autour de ça. On peut dire un mot du Japon, Julia Cagé?
Oui, c'est assez intéressant. Le Japon souffre d'un ralentissement assez fort de son économie depuis le mois d'avril. Ils ont fait passer leur TVA japonaise de 5 à 8% et ça a eu un effet de refroidissement très fort.
Oui, on s'en souvient, oui.
D'ailleurs, je pense qu'on pourra revenir là-dessus parce que ça montre aussi qu'il y a vraiment des facteurs réels par-delà les facteurs monétaires qui peuvent expliquer pourquoi une économie stagne. Bon. Pour répondre à ce problème-là, on a la Banque du Japon, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça, en fait. Hein. Elle a eu une politique monétaire très accommodante. En fait, elle a fait du quantitative easing. Elle en a fait depuis quasiment...
On n'a pas été en français pour tout ça ?
Assouplissement quantitatif.
Assouplissement quantitatif.
Bon, d'accord. Vous aimez moins, je le sens.
Non, donc on a fait un peu d'assouplissement quantitatif au Japon.
non, c'est pas grave.
Depuis le début des années 2000, c'est assez intéressant parce qu'on dit souvent que c'est apparu avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis, en fait, au moment de la crise économique de 2008. Ce qui est marrant, c'est que le Japon, on le sait, dans les années 90, a subi une très forte période de croissance faible, voire de décroissance, avec une inflation très basse. Donc ils étaient dans ce qu'on peut appeler, après je vais arrêter avec les termes techniques, une trappe à liquidité. Donc la Banque centrale avait beau remettre de la monnaie, réinjecter de la monnaie dans l'économie, en fait elle n'arrivait pas à sortir de la déflation. Et la manière dont c'était fait jusqu'au début des années 2000, en fait c'était pas suffisant. Juste abaisser les taux directeurs, faire un peu d'augmentation de la masse monétaire, ça ne marchait plus. Et c'est un peu le Japon qui a innové au début des années 2000 en étant les premiers à faire de l'assouplissement monétaire avec du rachat massif d'actifs. Ils vont le refaire aujourd'hui. Je pense que c'est assez intéressant ce qui va se passer. Il y a eu un petit effet directement sur les marchés dès jeudi. La bourse de Tokyo s'est envolée. Et surtout, il y a une très forte baisse du yen aussi par rapport au dollar, ce qui en termes de compétitivité japonaise ne sera pas forcément négatif. Il faut savoir qu'il y a une autre chose derrière la décision japonaise, c'est la volonté d'assécher le marché obligataire. En gros, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les banques commerciales au Japon ont tendance à ne pas vraiment prêter à l'économie réelle, aux acteurs de l'économie, mais à acheter des obligations d'État.
Ouais. Donc, elles ne sont pas les seules.
Oui, mais c'est un vrai problème parce que dans ce cas-là, vous n'alimentez pas la croissance de l'économie. Les entreprises ne peuvent pas emprunter, donc elles ne peuvent pas investir, etc. Et on va voir si c'est efficace. Ça sera efficace si, de facto, la Banque du Japon arrive à assécher ce marché obligataire, mais surtout si ça a pour conséquence une augmentation des prêts des banques commerciales à l'économie réelle.
Ouais. Assécher ce marché obligataire, je vous ai bien compris, c'est-à-dire...
Ils vont racheter toutes les
obligations demander aux banques de prêter un peu plus aux entreprises au lieu de...
Si à partir du moment où la banque centrale a racheté toutes les obligations d'État, les banques commerciales, elles ne peuvent plus en acheter, donc elles ont des liquidités à dépenser, et donc en fait, elles vont dépenser ces liquidités. Enfin, il faut espérer que ça ne sera efficace que si ça a pour conséquence que les banques commerciales dépensent ces liquidités pour investir dans l'économie réelle, dans les petites entreprises.
C'est-à-dire qu'elles prêtent aux entreprises et qu'elles les laissent travailler le mieux possible.
Exactement.
Problème que l'on observe ailleurs. Donc, même situation au Japon, on a parlé aussi de la BCE, on va peut-être venir bien sûr aux États-Unis. Remarque plus générale sur ces banques centrales un peu en pleine suractivité, oui. Philippe Askenazy, sur ces grandes tendances.
Tout à fait, elles sont en pleine suractivité. Il faut bien voir qu'on a eu une très longue période historique qui est née à partir du début des années 1980, où les banques centrales sont devenues véritablement centrales pour la compréhension, pour les mécanismes économiques, parce qu'elles ont permis, et notamment aux États-Unis, de casser la situation de stagflation. Donc si on revient vraiment aux années 70, début des années 80, forte inflation, économie stagnante, et c'est les nouvelles politiques monétaires, l'indépendance des banques centrales qui avaient permis de casser les schémas inflationnistes. Et il y a eu un héritage de ces succès à travers la constitution de la Banque Centrale Européenne, donc qui est régie par des traités. Et la Banque Centrale Européenne est, par ses traités, fondamentalement indépendante. Et pour prouver jusqu'au bout son indépendance, et c'est là où il y a une difficulté aujourd'hui, c'est que normalement, les traités lui empêchent d'acheter de la dette publique. Si on lit littéralement ce qu'il y a écrit dans les traités européens, elle ne pourrait pas acheter des dettes publiques des pays européens. Alors donc, dans les grands mouvements que l'on connaît aujourd'hui, si on voit le Japon, je pense que... plus que ces nouvelles techniques qu'elle met en œuvre. À nouveau, pourquoi il y a des nouvelles techniques ? Parce que on a su créer des bonnes techniques pour lutter contre l'inflation et aujourd'hui, on se trouve en situation où on a plus d'inflation ou de la déflation, des économies atones. Et donc, il faut des outils que l'on dit non conventionnels, mais qui en fait sont plutôt des outils qui deviennent de plus en plus conventionnels, standards, utilisés par tout le monde pour une problématique donnée. Alors, ce qu'il y a de nouveau vraiment avec le Japon, c'est que de facto, la Banque centrale du Japon n'est plus indépendante. C'est le gouvernement japonais qui pilote la Banque du Japon et qui pilote la politique monétaire japonaise. Et c'est là où le Japon finalement se distingue encore de l'Europe et des États-Unis, c'est qu'il n'y a plus cette indépendance. Et donc, s'il y a une véritable rupture en termes de paradigme, c'est qu'on est, à nouveau, dans les années 80, la Banque de France n'était pas indépendante du gouvernement. Bon, eh bien, le Japon nous remet dans une période qu'on pensait totalement révolue. Et c'est en ça qu'il y a une nouveauté. Et c'est en ça aussi qu'on peut comprendre qu'il y ait tant de débats au niveau de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire que les banques centrales nationales sont indépendantes de leur État que depuis peu de temps, que depuis peu de décennies. Et donc là, on leur avait dit, on donne une forte indépendance. On a des banques, la Banque Centrale Européenne est toute jeune, elle n'a que 15 ans. Et donc, c'est normal que ce type d'institution eh bien, soit jalouse de son indépendance et qu'il y ait des difficultés à prendre des décisions majeures compte tenu de cette jeunesse.
On n'a pas entendu Xavier Tambour. Juste sur la réserve fédérale des États-Unis, elle a quand même un conseil des gouverneurs qui la contrôle. Elle n'est pas totalement indépendante, la réserve fédérale américaine. Par rapport à la BCE,
elle est totalement indépendante.
D'accord. Et je croyais qu'il y avait des banques qui avaient un conseil de gouverneurs qui la contrôlait aussi. Non.
Bien. Mais c'est un conseil de gouverneurs, en partie nommé par l'État.
Qui reste indépendant du pouvoir politique.
C'est clair. Nommé par le pouvoir politique quand même, mais même ça, c'est partout.
Xavier Tambour, un mot encore sur les États-Unis, si vous le voulez, parce que là aussi, cette politique-là était déjà bien connue.
Oui, dans les éléments qui ont été dits, tout a été dit, donc je vais juste peut-être répéter un tout petit peu, mais et vous renvoyer aussi à un graphique que j'ai posté sur Twitter.
Très actif sur Twitter.
Oui, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir illustrer nos propos par des graphiques et qu'ils soient facilement accessibles. Donc,
merci de le faire, voilà, en pleine émission même.
Le graphique en question vous illustre le problème aujourd'hui des banques centrales, qui est la perspective de la déflation et la limite qu'il y a, qui s'installe, au fait que les taux d'intérêt nominaux ne peuvent pas être négatifs. Ils ne peuvent pas être négatifs parce qu'il y a de la monnaie en circulation. Bon. Okay. On pourrait imaginer des mondes dans lesquels il y a une monnaie électronique, par exemple, en circulation. C'est ce que propose Kenneth Rogoff. Et qui pourrait, en fait, du coup, être un monde dans lequel il y a des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire quand vous n'utilisez pas votre argent, votre argent, il vous rapporte, il vous fait perdre de l'encours. Donc ça serait un monde à taux d'intérêt négatif. Mais bon, on n'est pas dans un monde comme ça. Donc du coup, il y a cette limite à zéro, et donc il faut que les banques centrales trouvent des moyens artificiels de faire comme si elles pouvaient faire des taux d'intérêt négatifs. Et c'est ça, les politiques non conventionnelles. Alors le graphique que j'ai posté vous illustre ce qui s'est passé. Toutes les banques centrales ont fait de la politique non conventionnelle, et jusqu'au milieu de l'année 2012, elles avaient toutes à peu près des taux d'intérêt équivalents négatifs, qui étaient du même ordre, que ce soit la Banque Centrale Européenne ou la Réserve Fédérale. Mais par contre, depuis... Et c'est là où l'entrée dans la déflation de l'Europe se produit. En fait, la Banque Centrale Européenne a normalisé sa politique monétaire sans trop le vouloir. C'était un dispositif qui reposait sur des prêts à moyen terme et à long terme aux banques. Et les banques, dans un marché interbancaire qui s'est rétabli, dans une santé des banques qui s'est rétablie, ont commencé à ne plus utiliser cette facilité offerte par la Banque Centrale Européenne. Le bilan de la Banque Centrale Européenne s'est dégonflé. Pendant ce temps-là, la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon lançaient des programmes de rachat de dettes publiques et d'actifs privés, et donc continuaient à avoir une politique monétaire non conventionnelle qui pesait sur les taux d'intérêt, qui les rendait équivalents en des taux négatifs. L'objectif aujourd'hui de la BCE, c'est de s'engouffrer dans cette possibilité-là, et c'est extrêmement important de le faire parce que justement, la déflation en Europe devient beaucoup plus probable qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et donc la limite à zéro des taux d'intérêt joue encore plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la question de l'indépendance. La Banque Centrale du Japon n'est pas complètement dépendante du gouvernement. En fait, le nouveau gouverneur a été choisi parce qu'il était connu et qu'il avait déclaré qu'il suivrait une politique monétaire agressive. Mais une fois qu'il est en poste, les statuts de la Banque Centrale du Japon garantissent une certaine indépendance. La question, en fait, fondamentale, c'est derrière...
Tout ça est arrivé dans la foulée de la nomination de Abe, le fameux ministre, premier ministre, qui a vraiment renversé la table
japonaise. Et qui a probablement, par ce biais-là, montré une intervention dans la politique monétaire, mais en fait, cette intervention n'est pas une intervention continue. Ouais. Alors, ça, c'est en fait la question qu'il y a derrière, la vraie question qu'il y a derrière, et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment le cas au Japon, c'est la question de la coordination de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Julia Cagé l'a très bien expliqué, la Banque centrale fait ce qu'elle peut pour essayer de réanimer l'économie, pour que l'épargne qui se trouve immobilisée dans une trappe à liquidités soit effectivement utilisée par les agents qui
dans
prennent des risques, qui investissent
dans l'économie réelle.
Et que ben, justement cette prise de risque crée des emplois et fasse sortir l'économie de la trappe à liquidités. Donc il faut réanimer l'économie. Alors pour réanimer l'économie, la politique monétaire joue sur les prêts relatifs, elle essaye de rendre le crédit de moins en moins cher. Mais en fait, peut-être que ça ne va pas suffire. Et donc, il faut aussi une politique budgétaire de l'autre côté. Donc, Abenomics, c'est ça. La première flèche, c'est la politique monétaire. La deuxième flèche, c'est la politique budgétaire. L'Europe, son problème,
on n'aura pas l'un
sans
l'autre.
Cette coordination de la politique monétaire et budgétaire, au-delà en fait, de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Et qu'est-ce qui se passe en Europe ? Ben, la Banque Centrale essaye de faire le boulot. Elle a du mal, elle a été obligée de revenir en arrière. Elle va essayer de repartir en avant. Mais pendant ce temps-là, la politique budgétaire est complètement comprimée par le pacte, par le traité sur la stabilité, la coordination et la croissance. Et ça rend la situation européenne, il y a une autre particularité derrière qui est aussi assez importante, mais ça rend la situation européenne très différente de la situation japonaise ou américaine. L'autre particularité, c'est la fragmentation européenne et le fait que la politique monétaire de la Banque centrale n'a pas des impacts homogènes en Europe.
On a parlé d'ailleurs de dissensions au cœur de la BCE qui ont été démenties. Hein. Benoît Cœuré y a beaucoup insisté hier.
Oui,
elles ont été démenties.
C'est de la politique.
Je répète, elles ont été démenties. Je n'ai pas dit autre chose.
Non, Julia Cagé. Je pense que Xavier Tamo a tout à fait raison. On pourra faire de l'assouplissement monétaire ?
Quantitatif.
Quantitatif, voilà. Quantitatif. De l'assouplissement quantitatif en zone euro, ça ne suffira pas si on conserve des politiques d'austérité aussi fortes.
Et
ça,
voilà, on revient sur
ce qu'il faut,
problème.
C'est une relance de la demande dans la zone euro. Et le deuxième point, très rapidement, une des raisons pour lesquelles il est difficile aujourd'hui à l'Europe d'acheter de la dette, alors que la Banque centrale du Japon le fait, que la Fed le fait, c'est qu'on a une monnaie unique. Et je suis désolée de revenir là-dessus. Nous avons donc une monnaie unique et 18 dettes différentes. Donc, si la BCE devait racheter de la dette publique des États, elle devrait choisir tous les jours entre la dette de la France, la dette de la Grèce, la dette de l'Espagne, etc. Ce que la Fed n'a pas à faire. On ne demande pas à la Fed tous les jours de choisir entre la dette du Massachusetts, la dette du New Jersey. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, il y a deux choses en fait, qui rendraient véritablement efficace une politique monétaire plus agressive de la BCE. C'est que, un, je suis tout à fait d'accord avec Xavier Tambo sur ce point-là, ça soit accompagné d'une véritable politique budgétaire au niveau des États avec moins d'austérité. Et que, deux, on ait une dette publique européenne.
Bien, merci à tous pour vos explications. Les tout derniers commentaires, David Tesmar, je voudrais laisser un petit peu de temps à nos fameuses actualités
Sur les tout derniers commentaires, disons que ce dont on n'a pas parlé, ce qui aurait été bien, c'est de mentionner, c'est le fondement doctrinal de l'assouplissement quantitatif, de ces nouveaux modes d'intervention des banques centrales, et en particulier de savoir un peu qu'est-ce qu'on s'attend, quel est l'effet qu'on peut attendre sur l'économie. Il faut savoir que les économistes n'ont pas du tout les idées claires sur ce que ça peut donner. En gros, il y a deux théories, puis je vais juste les mentionner, et puis après, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. La première, c'est celle qui consiste à dire que la dette public et la monnaie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous soit vous achetez un bon du trésor, soit vous détenez de la monnaie, mais c'est très très similaire. Et ces deux choses-là sont fongibles. Dans la mesure où les banques centrales sont détenues par les États, c'est vrai que les bilans de la banque centrale, les bilans de l'État sont fongibles. Donc soit l'État au sens large émet de la monnaie ou il émet de la dette, et donc les gens sont un peu indifférents entre les deux choses. La limite de ça, c'est évidemment quand plus personne ne veut détenir de la monnaie, c'est de l'hyperinflation. Et la deuxième théorie, c'est la théorie de la redistribution par la politique monétaire. C'est-à-dire qu'en en manipulant les taux courts et les taux longs, en gros, ce que fait la Banque centrale, c'est-à-dire en achetant de la dette long terme et en prêtant à court terme à taux bas, ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle manipule l'allocation du revenu entre les créanciers et les débiteurs. Et que parfois, ça peut être très bien d'exproprier un peu les créanciers, c'est-à-dire de leur prendre leur rendement, en gros, pour le rendre aux débiteurs qui sont censés investir, consommer, etc. Et donc, voilà, c'est un peu ça les deux théories de l'assouplissement quantitatif. Mais pour être tout à fait honnête, les économistes sont un peu dans le flou encore sur les effets réels et à moyen et long terme.
Et peut-être les grands argentiers le sont-ils aussi. En tout cas, la question
oui,
qu'ils posaient,
c'est très probable.
C'est quelle voie suivre ? C'était le thème de ce symposium qui nous a donné envie d'en parler avec vous tous. Merci beaucoup. Encore un peu de temps pour nos actualités invisibles. On avait vos repérés. Honneur à Julia Cagé.
Moi, je voudrais féliciter les salariés de Nice Matin qui ont obtenu hier la gestion de leur journal.
En
Ça
effet.
A été un très long bras de fer. Le journal avait été mis en redressement judiciaire. Il y a très peu de journaux en France qui ont aujourd'hui le statut de SCOP, une exception étant Alternative Économique. Bon, ils ont créé une société coopérative d'intérêt collectif. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je trouve que dans le bras de fer qui les a opposés à toutes les offres de reprise possibles qui prévoyaient le licenciement d'une énorme partie des journalistes, c'est une belle victoire. Puis deux, je pense que c'est un mouvement d'espoir pour tous les médias qui sont en crise aujourd'hui et qui subissent justement des licenciements massifs forcés de leur salle de presse.
On les encourage donc. Merci beaucoup, Julia Cagé. Autres actualités invisibles, David oui. Tesmar.
Très brièvement, un entrefilet dans Le Monde cette semaine sur les premières actions de groupe à la française. Les premières actions de groupe qui touchent des assureurs ou des bailleurs. Donc vous avez des associations de consommateurs. UFC Que Choisir en l'occurrence, qui mène en gros des combats pour un grand groupe de consommateurs qui sont spoliés de petites sommes, donc en l'occurrence dans le cas d'un bailleur dont j'ai oublié le nom, c'est 2,30€ par mois par exemple, de gens qui doivent payer quelque chose que normalement ils ne devraient pas payer.
L'air de rien,
ils ne feraient rien, mais l'air de rien ça s'accumule. Et UFC Que Choisir, donc, puisque la loi, contrairement aux États-Unis, fait que les actions de groupe sont menées par des associations de consommateurs. Hein, c'est vraiment elles ont le monopole, en gros, à décider de mener ce combat. On va voir si c'est au-delà du coup de pub, hein, s'il y a vraiment quelque chose de réel. Hein. Alors, ce qui compte, c'est vraiment que la punition soit forte. Hein, parce que si c'est quand même les actions de groupe sont utiles dans la mesure où elles menacent en gros les gens qui voudraient dévier. Donc il faut quand même qu'ils soient très puissants.
Il ne faut pas qu'elles soient symboliques pour que ça marche. Voilà, mais en tout cas, ça donnera des idées à d'autres associations et d'autres consommateurs qui peuvent saisir leurs associations.
Et le monopole des associations de consommateurs, c'est aussi en question. C'était la seule façon de rendre la réforme acceptable, mais est-ce qu'il faut vraiment que ça se passe comme ça?
Merci David Tesmar, Xavier Timbo.
J'ai une actu cachée qui relie les deux sujets qu'on a traités aujourd'hui. Cette actu cachée, oui, vous allez voir, c'est assez amusant. Cette actu cachée, elle n'est pas très cachée, Apple a levé 2,8 milliards d'obligations en euros sur les marchés européens, à un taux assez extraordinaire. À 8 ans, ils ont réussi à emprunter juste au-dessus de 1% par an. Donc c'est un taux tout à fait extraordinaire. On pourrait se dire, ça c'est la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui permet effectivement d'emprunter très peu cher à des entreprises privées. Et donc c'est bien parce que ça va pouvoir fonctionner et relancer l'économie. Alors oui, sauf que pourquoi Apple emprunte aujourd'hui sur les marchés financiers? Apple n'emprunte pas pour investir. Alors, Apple est une entreprise qui investit beaucoup, mais en fait Apple a énormément de cash et donc n'a pas besoin d'emprunter. Alors pourquoi elle emprunte? Elle emprunte parce que ses actionnaires réclament des dividendes. Et Apple a beaucoup de cash, mais ce cash est dans des paradis fiscaux. Et si Apple rapatrie son cash pour payer ses actionnaires, Apple va devoir payer beaucoup d'impôts et perdre une grande partie de son cash. Et donc,
Apple ne veut pas faire ça. C'est décourageant.
Apple emprunte en zone euro, en euros, à des taux extrêmement bas, donc en quelque sorte bénéficiant de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Tout ça pour pouvoir payer ses actionnaires et continuer à faire de l'optimisation et de l'évasion fiscale à l'échelle mondiale. Voilà, donc les choses ne se passent pas toujours exactement comme c'était prévu.
C'était bien la peine d'en parler longuement il y a quelques minutes. Philippe Askenazy, vous avez 10 secondes. Excusez-nous.
10 secondes.
Excusez Xavier Timbo, surtout. Non,
très vite, peut-être que Xavier a un smartphone Apple, au passage.
Oui, exact.
Évidemment, il n'arrête pas de tweeter.
Il y a un problème de cohérence. Peut-être juste, on va avoir dans un mois les chiffres INSEE du chômage. C'est quelque chose qu'il faut suivre parce que depuis en fait, quelques trimestres, il y a une forme de divergence entre les chiffres du chômage donné par l'INSEE et les chiffres du chômage donnés par Pôle emploi. L'un progressant nettement plus vite que l'autre. Or, derrière les chiffres, vous savez, il y a des enjeux politiques absolument considérables. Le président de la République a dit qu'il ne se représenterait que s'il fait baisser le taux de chômage en France. Or, si on a des difficultés à mesurer le chômage, le débat va être très complexe. Donc peut-être ça méritera une émission dans un mois.
Merci Philippe Askenazy, dont je rappelle, tenez, opportunément, la ressortie des décennies aveugles, emploi et croissance, vous l'avez fait exprès, 70-2014, réédition, un livre tout à fait très intéressant autour du effectivement terrible défi de chômage de masse. Merci à tous les quatre, on renvoie aussi aux travaux de l'OFCE sur les questions des impôts, et puis à tous vos travaux aux uns et aux autres. Un salut à notre partenaire Libé, Ecofutur, qui fait un cahier spécial sur les bio-entreprises Hacker, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, vous le verrez bien, c'est un nom un peu barbare, mais qui sont des scientifiques, des universitaires, des ingénieurs, des chercheurs qui se réunissent et qui veulent ouvrir leur recherche à tous au nom du principe de l'open source. Je parle anglais moi aussi, vous le voyez. Très bonne journée à tous. Merci à Ghislaine David, Emmanuel Morzincamp pour la réalisation et bien sûr à Laurent Genepin pour la préparation, pour la documentation à samedi prochain. Très bonne journée.